Et pour continuer en fait sur la lancée des géographes, enfin de l'approche par la géographie, Paul Arnoux va nous proposer une autre approche autour de la forêt, de l'arbre. Alors c'est celui-ci, hein. Donc Paul Arnoux qui est professeur des universités aussi ici à l'école, on en profite pour le rappeler, qui est géographe. Et c'est vrai que cette journée a amené un petit peu indirectement à pas mal invité des géographes avec des conceptions très différentes de la nature. Julie arrive plutôt par des travaux de recherche sur l'agriculture périurbaine notamment. Et Paul Arnoux est notamment spécialiste de biogéographie. Et nous l'avons invité parce que dans son ouvrage à paraître dans un mois.
Un mois, oui, tout juste.
Voilà, dans un mois, il a consacré des pages, notamment à Tintin et à la représentation de l'arbre et de la forêt dans la bande dessinée.
Merci, Bénédicte. Avant de me placer en géographe, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui viennent de loin pour vous écouter, des profs d'université. Il y a Roland Courteau qui vient d'Aix, tu connais, et ça montre l'attractivité de votre labo junior. Je voulais dire un mot sur les labos juniors, parce que j'étais à un temps directeur adjoint du pôle recherche à l'école, et j'avais un peu dans mon... parmi mes responsabilités de suivre les labos juniors. Donc, les labos juniors, c'est une œuvre spécifique à l'école qui a plus d'une dizaine d'années d'âge et où ce sont des étudiants qui font un projet sur une thématique et qui organisent des journées comme celle d'aujourd'hui, qui font venir des gens, publient, ont des échanges et font de la recherche scientifique, font l'apprentissage de la recherche scientifique. Et le Labo Junior Bande Dessinée, avec Monique Noiret, qui était la secrétaire qui suivait les dossiers, quand on avait vu passer le dossier, tous les deux, on s'est dit, ça, c'est un beau dossier. Et c'est un dossier qui s'est fait retoquer, parce que tous les labos juniors passent devant le conseil scientifique, parce qu'on leur attribue un crédit de quelques milliers d'euros. Et pour cela, donc, sur les fonds du conseil scientifique, il faut qu'il y ait un rapporteur et que le projet soit validé. Et c'est un labo qui a été, donc, retoqué en première lecture. Et je sais que Tristan Martin, Émeric Lordeau et les autres l'ont sans doute mal vécu. Moi, de mon point de vue, c'était à des beaux projets. Il était même un peu trop beau, trop foisonnant. Il y avait une bibliographie énorme. Souvent, dans les projets de Labo Junior, il y a trois titres en bibliographie. Vous aviez, enfin, comme dans les bibliographies pour l'agrégation, quasiment 10 pages de biblio. C'était impressionnant, c'était foisonnant. Et on a une collègue très stricte qui, vous l'avez connue parce qu'après vous avez dialogué avec elle, qui a trouvé que ça manquait d'un fil conducteur, qu'il n'y avait pas une problématique forte, que ça partait dans tous les sens, que vous essayiez de créer du réseau avant de faire vraiment de la recherche par vous-même. Donc elle vous a fait passer la barre quasiment d'une équipe CNRS ou des exigences qui n'étaient pas celles d'un labo junior. Et quand je compare, il y a des labos juniors qui avaient beaucoup moins de moelle que le vôtre qui sont passés sans coup faire rire. Donc c'est une subtile alchimie, mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que c'est la vie de la recherche scientifique. Quand on fait de la recherche, on répond à des appels d'offres, on propose des articles et il arrive qu'on soit refusé ou qu'on vous dise ça ne convient pas, il faut améliorer, il faut remettre votre travail sur l'ouvrage. Donc vous avez fait, c'est toujours très désagréable quand on échoue, qu'on a fait un projet auquel on croit et puis qu'on c'est pas récompensé. Généralement, ça sert toujours le travail qu'on a fait, les séances de remue-ménage, les gens à qui on a travaillé, même dans l'échec, je pense que c'est un apprentissage qui a ses vertus, même si c'est un peu traumatisant, je pense. Mais je voulais vous le dire, Monique et moi, on avait trouvé ça très beau. Des collègues ont trouvé que ça méritait d'être peaufiné. Vous avez perdu un an, vous avez quand même dit que vous mèneriez votre barque. Et j'ai énormément apprécié votre volontarisme. Donc, quand j'ai été contacté pour participer à ce Labo Junior, c'était bien volontiers que je l'ai fait. Je l'ai fait d'autant plus, comme le dit Bénédicte, je termine un livre qui s'appelle « Au plaisir des forêts » et il y a un chapitre qui s'appelle « Au plaisir enfantin de la BD ». Donc, c'est pas de 5-6 pages. C'est pas très scientifique, c'est plutôt des notations montrant comment j'ai, quel a été mon rapport avec la BD et la BD avec mes objets d'étude depuis une quarantaine d'années, que sont l'arbre et la forêt. Alors j'ai intitulé mon intervention « Le vivant mis en case », qui est en résonance avec le titre. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà choisi « Les cases se mettent au vert » avant que... Mais je sais que quand j'ai proposé « Le vivant se met en case », Émeric m'a dit « Ça va très bien, ça colle tout à fait avec ce qu'on veut faire ». Donc, alors, en même temps, les deux mots... Le vivant, je suis biogéographe, donc je suis effectivement un spécialiste de la géographie du vivant et de la géographie de l'environnement de façon plus large. Et le vivant, c'est pas tout à fait ce dont je vais traiter, parce que pour moi, le vivant, c'est de la biochimie, c'est les briques du vivant, c'est ce qu'étudie en labo, c'est une façon d'aborder l'étude à partir de la biologie moléculaire ou de la génétique, qui n'est pas ma tasse de thé. Sinon, si ce n'est pas le vivant, c'est aussi de la géographie de la vie. Mais la vie, c'est ce qui est dans toutes les BD. La BD, c'est des histoires de vie, c'est la vie dans son foisonnement, c'est toutes les vies possibles. Et la vie, c'est plutôt du registre de l'éthique, du moral, de la morale, de la politique. Et je ne vais pas parler de ces questions sous-jacentes, aux gros enjeux, la vie, la mort, avant, après, qui suis-je, où vais-je. Non, je vais parler du vivant, des êtres vivants, des individus, des espèces, de tout ce qui fait le tissu de ce qu'on appelle depuis une vingtaine d'années, donc la biodiversité, mais qui est une préoccupation de toujours, cette idée d'inventorier le vivant, de savoir, de nommer les êtres qui nous entourent, et puis aussi de leur attribuer des fonctions, de les mettre dans des cases, là aussi, et ces cases sont souvent des stéréotypes. Alors je voulais remercier Bénédicte et surtout Tristan Martin parce que j'ai fait un PowerPoint qui, comme disait ma collègue Martine Tabot, est vraiment un pauvre point. C'est-à-dire que j'ai mis bout à bout un certain nombre d'images tirées de Tintin. Mais je vais vous parler quand même de deux, trois autres auteurs qui ont nourri mon imaginaire. Alors moi aussi, j'ai une collection de bandes dessinées. Je l'ai dans une maison dans les Vosges. Je ne suis pas retourné récemment. Je ne pouvais pas y aller. Et c'est des BD... extrêmement classique, c'était celle lorsque j'étais adolescent, donc c'est Astérix, c'est Tintin, c'est la patrouille des castors, c'est des choses comme ça, donc c'est pas très très à jour, c'est plutôt du daté. Et donc pour parler de la mise en case du vivant, avant de parler de Tintin et d'Hergé, qui m'occupera principalement et qui sera illustré par le PowerPoint, je voudrais parler d'Astérix, qui, pour moi, est une des BD qui a contribué à forger un certain nombre de façons de voir notre histoire, mais aussi les rapports entre les hommes et les milieux. Alors, dans Astérix... il y a des tableaux de la forêt gauloise, et c'est une forêt où le chêne est omniprésent. Et le chêne est omniprésent au travers de trois personnages, notamment, qui sont des personnages beaucoup plus riches et beaucoup plus lourds de personnalité que le personnage d'Astérix, qui, de mon point de vue, tout comme Tata, est un personnage un peu lisse, un peu falot. C'est tout d'abord Panoramix, le druide, avec sa potion magique. Donc, il faut qu'il aille dans les chênes, des chênes parasités par le gui, qui est un des ingrédients de sa potion magique. Et toutes les forêts représentées autour des camps romains et du village d'Astérix et d'Obélix sont des forêts de chênes. C'est logique dans la mesure où, parmi les forêts feuillues en France, les chênes, c'est 40% des espèces, des grands arbres, donc... l'omniprésence du chêne, il n'y a pas scandale, même si c'est un peu caricatural. Il y en a que pour le chêne. Et le chêne, on le voit en forêt, lorsqu'ils vont à la chasse au sanglier, mais on le voit aussi à côté, dans le site du village, il y a le chêne au-dessus de la table du banquet, où rituellement, dans tous les albums, il y a le bar d'assurance touriste qui se trouve attaché, ligoté et bâillonné pour qu'il ne joue pas de son instrument et qu'il ne chante pas, parce que dans les deux cas, c'est... des choses qui sont assez catastrophiques. Donc, dans Astérix, on a une forêt qui apparemment est monospécifique à seul arbre, mais ça fait partie du comique. C'est pas la peine Astérix, ça ne sert pas à décrire la forêt, ça sert à donner une image qui, où les gens se retrouvent, qui crée de la complicité avec le lecteur. Et donc, cette forêt monospécifique de chêne, ça a du sens. C'est aussi une forêt où il y a des animaux, là aussi, il y a une palette d'animaux extrêmement limitée. Parmi les petits, il y a les écureuils et les lapins, toujours très mignons, très... Et puis, il y a les fameux sangliers, qui sont les animaux sacrificiels que Obélix tue sans état d'âme et qui se retrouvent sur la table du banquet, là aussi, soit dans le corps du texte, soit à la fin. On a là un animal aussi qui est un animal qui a gardé une forte signification en biogéographie, dans la mesure où récemment, il y a eu plusieurs thèses qui sont attachées à faire l'étude du sanglier. Notamment une très belle thèse qui est même évoquée dans l'ouvrage de Michel Lusseau, de Coralie Mounet, sur le loup et le sanglier dans les Alpes du Nord. Et le sanglier, c'est un animal, effectivement, qui, pour les chasseurs, à travers les siècles, a gardé une très forte valeur symbolique, dans la mesure où c'est un animal sauvage, c'est un animal qui peut être dangereux, puis c'est un animal aussi qui est mi-sauvage, mi-domestique. Et les chasseurs, les mauvais chasseurs, les chasseurs à la recherche de facilité, souvent nourrissent les sangliers avec du maïs ou avec d'autres plantes pour qu'ils viennent des endroits où ils vont à l'agrainage, où ils vont manger des grains qui ont été mis à leur disposition. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile pour les tirer, les repérer, les coincer. Et... Il y a des noms qui ont été donnés d'ailleurs à ces sangliers qui ne sont plus très sauvages mais qui sont devenus semi-domestiques puisqu'ils viennent manger à lieu fixe et à date fixe dans des endroits que les chasseurs leur ont imposés. On appelle ça les cochongliers, c'est-à-dire le mi-sauvage, mi-domestique, et les Belges appellent ça les sanglochons. Aussi, ils ont pris un bout des deux mots pour montrer qu'on est là aux frontières du sauvage et du domestique, qui est une des particularités, là aussi, des milieux naturels et de la nature. On essaie toujours de jouer sur du naturel, sur du sauvage, des choses qui font peur, mais en même temps, on a besoin de se rassurer. Et le sanglier est typique de ces animaux ambivalents. Alors, dans Astérix, on trouve du sacré, donc avec la recette de la potion magique, on trouve du culturel, avec Assurance Tourix attaché à son arbre. On trouve aussi du social et de l'économique, et il y a une BD d'Astérix qui me paraît révélatrice, c'est Le Domaine des Dieux. C'est où des spéculateurs veulent instaurer un genre center park au milieu, ou un domaine, une résidence luxueuse au milieu de la forêt de chêne. Et ils viennent avec une armée de bûcherons. De bûcherons d'ailleurs venus de tout l'Empire. Il y a des Helvètes, il y a des Belges, il y a des Numides. Et ça donne des images assez cacophoniques de ces bûcherons qui ne parlent pas de la même façon, qui ont du mal à respecter les consignes, mais qui est quasiment aussi une préfiguration du prolétariat forestier actuellement dans la mondialisation. En France, les travailleurs forestiers les plus exposés, les plus rudes, les bûcherons, c'est souvent des gens qui viennent des Balkans. Et de même, dans les exploitations forestières tropicales, on a des ouvriers forestiers qui forment un vrai lumpen prolétariat qui viennent de toutes les régions du monde. Et la peinture dans Astérix, Le Domaine des Dieux, de ce prolétariat forestier de l'Antiquité, a des résonances dans l'époque moderne avec des conditions de travail très dures. Et puis dans cette même BD, je trouve qu'à côté aussi de cette peinture prémonitoire de choses qui continuent à fonctionner actuellement, il y a aussi l'assurance...
Le chien.
Non, non. Assurance Tourix. Panoramix. Panoramix, le druide. C'est quasiment un chercheur de l'INRA parce qu'il a réussi à inventer des OGM, les arbres déracinés la nuit. Il a réussi à trouver des glands qui reconstituent des arbres centenaires en quelques instants. Donc là, c'est l'organisme génétiquement modifié dans toute sa splendeur. Et là aussi, il y a quasiment un clin d'œil prémonitoire. Je ne suis pas sûr que Goscinny et Uderzo les pensaient comme ça, mais moi, c'est comme ça que ça m'a fait réagir. On est là quasiment donc, avec des OGM de l'Antiquité et le rêve de tout forestier productiviste, parce que c'est quand même des réalités aussi. trouver des variétés de peupliers qui poussent à toute vitesse, qui n'aient pas de maladies, qui aient qui fassent du volume de bois le plus vite dans le moins de temps possible. C'est aussi à l'œuvre, même si c'est surtout à l'œuvre dans le domaine des grandes plantes cultivées, pour les arbres, ça existe aussi, même si c'est moins valorisé. Et puis, c'est facile de faucher des OGM, c'est plus difficile d'abattre des arbres génétiquement modifiés comme les peupliers ou certains pins maritimes. Alors, à côté de cette bande dessinée canonique d'Astérix, il y en a une qui m'y a fait penser. C'est une bande dessinée de Binet dans Les Bidochons. Alors, dans Les Bidochons, il y a plusieurs fois, il aborde des thèmes qui ont rapport avec le vivant, la forêt, les milieux naturels. Et il y a une bande dessinée de Binet qui s'appelle Maison, Sucré Maison, donc la traduction mot à mot de Home Sweet Home. Et les Bidochons veulent avoir une résidence, c'est la course pour obtenir une maison. Et alors, en fonction de leur capacité de financement, ils finissent par obtenir une maison lambda dans un endroit plat comme la Beauce, où il n'y a rien, pas un seul arbre. Et Germaine Bidochon a rêvé d'avoir sa maison au sein d'une forêt centenaire. Alors, quand ils ont enfin leur petite maison, qui est le pavillon absolument riquiqui, minuscule, ils plantent des chênes, mais elle n'a pas le moral, Germaine Bidochon, parce qu'elle dit, avant qu'ils soient centenaires, elle se doute qu'elle ne les verra pas centenaires, et elle n'a pas la recette de la potion magique de Panoramix. Et donc, c'était relativement... une façon assez caricaturale de traiter le rapport de l'habitation et de cette volonté, là aussi, qu'on retrouvait dans le domaine des dieux, d'avoir une maison à proximité de la forêt et d'avoir cette proximité des arbres centenaires. On a là des choses qui sont aussi récupérées par la publicité et on vend souvent de l'habitat avec tout un environnement naturel, la campagne, mais la forêt ou l'arbre se vend souvent mieux, c'est un argument de vente extrêmement important. Dans une autre BD de Binet que vous avez peut-être lu ou que je vous conseille de lire, c'est Les Bidochons en voyage organisé. Les Bidochons ont gagné un concours, les Pat Pazzani, et donc ils font un voyage organisé avec une caricature donc du pays qu'ils visitent, et puis des collègues qui sont les autres gagnants du concours. Donc ils visitent beaucoup de monastères, et à un moment donné, il y a Germaine Bidochon qui se perd en forêt, là aussi, et donc son mari, Raymond, évoque là aussi le milieu forestier. Il évoque notamment la petite forêt où ils s'arrêtent pour faire leurs besoins quand ils descendent vers le sud. Et donc là, on voit aussi un rapport à la forêt, qui est un rapport utilitariste, et quand Germaine disparaît en forêt pendant qu'elle va faire ses besoins là, avec tous les congressistes dans la forêt de Viasca, et tout de suite, il y a le mythe aussi, elle a dû être dévorée par les loups qui ont dû la récurer jusqu'à l'os. Enfin, il y a tout un tas de stéréotypes sur la forêt qui fait peur, mais en même temps, on voit que là, c'est aussi une forêt qui est très humanisée, très anthropisée. Alors, à côté de ces deux types d'auteurs, il y a un auteur que j'apprécie énormément et qui n'est pas du tout dans le même registre, c'est Claude Ponty. Claude Ponty, qui est un auteur plutôt laissant libre cours à de l'imaginaire, qui fait des livres pour enfants, mais où les adultes peuvent y trouver leur bonheur. Et notamment, il y a deux livres de Claude Ponty. Il y en a énormément où il parle de la mer, des fleuves, des montagnes. Mais il y en a un qui s'appelle L'arbre sans fin, qui est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Hippolène, dont le père s'appelle Frondaison, et qui est l'histoire dans un arbre qui est une espèce d'arbre magique, mais pas aussi stéréotypé que l'arbre magique, je ne sais pas si c'est Fisher-Price qui faisait ça, et qui est l'histoire d'une petite fille à la chasse aux glousses, des graines qu'on doit chatouiller pour qu'elles sortent de leur gang. Et puis elle tombe au sol, et elle est attaquée par une espèce de monstre qui s'appelle Ortie, qu'elle se transforme en pierre, elle croise tout un tas de personnages merveilleux, et donc c'est un arbre, c'est dans les racines de l'arbre, c'est dans des milieux forestiers, c'est quasiment féerique, magique, ça donne libre cours à l'imaginaire. C'est truffé de petits détails. Quand je lis l'ouvrage à mes petites filles, elles repèrent souvent des petits animaux ou des petites bestioles qui sont censés faire partie de l'écosystème et qui sont là aussi décidés de façon absolument incroyable. Et puis, il y a un autre ouvrage de Claude Ponty que j'aime bien aussi, c'est le catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer. Donc, et Claude Ponty, il a des livres aussi avec des formats tout à fait inhabituels. Il a des trucs minuscules pour des histoires pour les tout-petits, les 3-4 ans. Et puis, il a des albums en format A3 et le catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer et de ce type de format. Et donc, parmi tous les types de parents que les enfants pourraient vouloir désirer à la place de ceux qui leur ont été attribués, il y a les baobabs. Il y a deux baobabs qui sont des deux parents et avec une description assez loufoque, mais qui, pour moi, est quand même un petit chef-d'œuvre d'humour et d'allusion poétique. Alors, à propos des deux baobabs, Claude Ponty dit « Issus de l'agriculture biologique et multicentenaire, les arbres ont un caractère ferme et doux. Ils ne sont pas d'une grande rapidité à la course et perdent leurs cheveux à l'automne, mais ils aiment se coiffer d'oiseaux, de neige, de brins de conversation ou de coquillages alpins, pour enfants découvreurs. » Ça, c'est une des façons de décrire donc, les arbres, les deux baobabs qu'on peut proposer à des enfants. Et puis, il y a une autre description à la fin du catalogue. « Les arbres sont des parents rêveurs de beauté. Ils passent parfois plusieurs années au bord d'une rivière, lente et claire, à contempler les poissons fuyants entre les algues dans les reflets du ciel. Ils aiment qu'un enfant construise une cabane entre leurs branches. On dit leurs feuilles cantatrices. Lorsqu'ils se réunissent en famille, ils forment des bosquets et parfois des forêts. » Donc, c'est du rêve, c'est de la poésie, mais en même temps, derrière, il y a du réel, il y a des choses qui correspondent à des processus, du fonctionnement, des structurations du vivant. Alors après, ces auteurs, alors j'aurais pu aussi parler de Gaston Lagaffe, qui est un auteur qui a été choisi par les Nations Unies pour être la mascotte de symbole de l'environnement. Et il y a eu deux albums de Gaston Lagaffe, hein, Lagaffe et le développement durable et Lagaffe et la biodiversité, ou Gaston et la biodiversité.
L'écologie, je crois.
Et l'écologie, ouais. Et l'autre, oui, et la biodiversité. Et j'aime bien Gaston Lagaffe parce que c'est un personnage ambigu au point de vue écologie. Comme tout à l'heure, il y a les écologistes purs et durs. Moi, je suis plutôt un écologiste contestataire. Et Gaston, il est ambigu parce qu'il a son gagophone, ça fait un boucan terrible. Sa voiture, elle pollue comme c'est pas permis. Mais en même temps, il protège sa mouette, il protège le hérisson. Il a des animaux fétiches, il met des masques à gaz aux poissons. Alors, il invente tout un tas de trucs pour protéger des petites nichées d'animaux. Donc, j'aime bien aussi ce type de personnage qui n'est ni tout blanc, ni tout noir, mais qui assume les contradictions qui sont ceux de la vie en société. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler surtout du vivant mis en case dans Tintin, ici. Donc, dans Tintin, c'est des plus grands succès de librairie, il y a plusieurs centaines de millions d'albums vendus. Et on vante souvent Hergé pour sa capacité à se documenter de façon précise, à avoir accumulé des archives. Mais les trois premiers Tintins font allusion, pour moi, du point de vue des milieux forestiers. Ah ouais, c'est pas d'une qualité terrible. Il faudra se référer à l'original. Donc, dans les trois premiers Tintins, la vision des milieux forestiers, c'est absolument caricatural. Et en même temps, le premier Tintin au pays des Soviets, une partie se déroule au cœur de la plus grande forêt du monde, la forêt boréale, la taïga russe. Le deuxième, Tintin au Congo, c'est dans la forêt équatoriale, la forêt dense. Et le troisième, Tintin en Amérique, c'est dans le domaine des grandes forêts tropicales, des grandes forêts tempérées sur les façades des continents. Et lorsque l'on regarde la façon dont l'arbre est figuré dans ces trois premiers albums de Tintin, c'est tout à fait pitoyable. Je remercie Tristan Martin qui m'a envoyé des images de Tata, mais il n'y avait pas Tata au pays des Soviets. Et dans Tata au pays des Soviets, si vous regardez, lorsque Tata fait de la voiture le long des routes, il y a toujours, on voit des bases de troncs d'arbres, ou même des troncs d'arbres qui ont été coupés, il reste que des chicots d'arbres, comme des espèces de dents dans une mâchoire très, très édentée. Et là, il y a une figuration de l'arbre qui est le degré zéro de la représentation de ces individus. Je peux assombrir ou...
Continue. Oui. J'ai juste de faire ça.
Et donc, l'arbre dans Tata, dans les premiers Tata, est...
Voilà.
Ah oui.
Bon, ben voilà.
Voilà. Merci pour le relais. Merci Roland. Quand la technologie ne va pas, il n'y a que la main qui s'y plaît. Alors, dans ces trois premiers Tata, il n'y a quasiment pas de forêt. C'est des milieux herbacés, les Tata, alors qu'il est dans les grands milieux forestiers. Et pour mettre l'arbre et la forêt en case, ou la nature, c'est vrai que c'est plus facile de mettre de l'herbe que de l'arbre, parce que l'arbre, ça sort du cadre. Généralement, pour avoir la totalité de l'arbre, la base du tronc, les rameaux et éventuellement le sommet, c'est pas facile à dessiner, alors il faut le dessiner très loin en arrière-plan, et c'est ce qui est le cas. Et donc, on voit souvent des forêts un peu en arrière-plan ou des arbres isolés. Dans Tata au Congo, donc, c'est plutôt de la savane arborée. Dans Tata en Amérique, c'est la prairie. Et dans Tata au pays des Soviets, c'est la steppe. C'est des paysages donc, de l'herbe plus que des paysages de l'arbre. Et donc, au début, Hergé ne sait pas ou dessine très mal les forêts, dessine très mal les arbres. C'est seulement des arbres prétextes. Et avant les arbres, d'ailleurs, il va dessiner des animaux, avec notamment dans le deuxième Tata au Congo, il y a une orgie de description d'animaux, et il dessine notamment ce que deviendront les Big Five, lorsque l'on va visiter les grands parcs animaliers d'Afrique. Les catalogues vous disent il faut que vous ayez vu les 5 grands animaux, le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, et puis... Le léopard, mais voilà, et chez Tata, dans Tata au Congo, qui se passe pourtant entre les deux guerres, on a déjà toute cette idéologie des grands animaux, des animaux emblématiques, des animaux qu'il faut avoir vus, et à l'époque, qu'il fallait peut-être même avoir tué pour en rapporter des trophées. On a là toute une idéologie qui me fait songer aux travaux d'un collègue anthropologue, qui s'appelait Dalla Bernardina, qui montrait d'ailleurs que entre... les chasseurs, les écologues et les touristes, il y a les mêmes mécanismes qui fonctionnent. C'est trois catégories de personnes qui veulent la nature pour eux tout seuls, qui veulent être maîtres et possesseurs de la nature. Et leur conflit, c'est souvent parce qu'ils ne tolèrent pas qu'il y en ait d'autres qui puissent avoir accès à la même ressource. Et c'était assez provocateur, mais en même temps, ça permet de s'interroger lorsque l'on est dans une des catégories, pourquoi les autres pensent différemment à propos... de l'objet vivant, de l'être vivant animal. Alors là, donc, parmi les Big Five, il y a l'éléphant. L'éléphant, donc, qui charge Tata, mais Tata... Il y a le lion, et le lion qui va être mis à la raison par Milou, qui arrive à lui arracher la queue, et qui en fait un animal à la merci. Dans Tata au Congo, il y a aussi ce massacre de gazelles qui, là aussi, est la caricature du chasseur qui croit à chaque fois avoir raté son coup et qui, en fait, a tué plus d'une douzaine de gazelles. Et on a là... on a accusé Hergé d'être raciste, antisémite, colonialiste sans état d'âme et non écologiste primaire... C'est vrai que le Tata au Congo, c'est une caricature du rapport de l'homme avec les animaux. Et là, je crois que dans la législation, les animaux ne sont plus des biens meubles, mais viennent d'être considérés comme des êtres doués de vie et de sensibilité. Là, on est dans le registre de l'animal comme de l'arbre, d'ailleurs, qui sont dans le registre du mobilier urbain ou du bien meuble dont l'homme peut faire un usage sans aucune limite. Alors, dans ces Big Five, il y en a qui peuvent avoir un rôle salvateur, et souvent, animaux ou végétaux, chez Tata, sont objets de gag. Gag avec, j'ai pas repris, mais avec le serpent qui avale Milou, mais Milou arrive sortir ses pattes, et ça devient un serpent qui marche, un boa qui avale Milou, qui devient quand même un animal gaguesque. Là, c'est un rhinocéros qui permet à Tintin de rebondir et d'éviter d'être dévoré par les crocodiles. Et on a l'arbre qui va jouer aussi ce même rôle d'arbre salvateur. Dans Tintin en Amérique, on a là un arbre providentiel. Lors de l'accident de chemin de fer qu'a Tintin, il se retrouve avec le monsieur en charrette perché sur un arbre. Alors là aussi, dans Tata en Amérique, il n'y a quasiment jamais de forêt, c'est que de la prairie, mais quand il y en a besoin pour les besoins de la cause, on trouve un arbre. Là, on trouve l'arbre à côté du passage à niveau où la charrette s'est faite exploser. On retrouve Tata et menacé d'être pendu. Et donc, il y a le gag là, de l'arbre au pendu, qui est aussi une thématique, pas seulement dans la bande dessinée, mais dans l'iconographie, qui revient souvent depuis des images de Dürer sur les arbres pendus de la guerre de 30 ans. On retrouve ce thème de la pendaison, et là, traité de façon humoristique aussi, avec l'arbre, une branche qui casse, puis Tata qui arrive s'échapper. Et s'échappant d'un arbre où il allait être pendu, sur l'immensité de la prairie, il trouve un deuxième arbre qui lui permet de sauter sur le rable du cavalier qui le poursuit. Donc on voit là l'arbre providentiel, l'arbre support de gag. Support de gag, on le retrouve dans l'arbre au pays des sables. Alors, dans les grands milieux que parcourt Tintin, il y a effectivement, donc les trois premiers, c'était dans des milieux forestiers, mais où il n'y avait pas de forêt, il n'y avait que de l'herbe. On le retrouve là dans le milieu minéral du désert, dans Tintin au pays de l'or noir. Et donc là aussi, du rocher, le paysage minéral, du sable, le règle, l'ergue. Mais malgré tout, il y a le gag des. Au début, bon, ça démarre dans les milieux tempérés. Et là encore, on a les arbres de bord de route avec l'essence frelatée qui explose. Et les Dupont, donc au pied d'un arbre. Mais surtout, c'est lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, les Dupont avec leur jeep, et qu'ils percutent un arbre de plein fouet. On a là le symbole du mirage. Auparavant, ils avaient vu des arbres mirage, donc ils disent ça continue. Et ils se tapent le seul arbre existant à des kilomètres à la ronde. Ça fait penser à un arbre qui était célèbre dans les premiers rallyes Paris-Dakar, qui s'appelait l'arbre du Ténéré, qui était aussi un arbre isolé, assez improbable, témoin des pulsations climatiques, des variations, des avancées, des reculs de la forêt. Et on a là aussi donc, cette image, c'est à la fois l'arbre gag, mais c'est aussi le symbole d'un arbre. Le palmier, ce n'est pas vraiment un arbre. Pour les puristes, ils ne fabriquent pas du bois comme les arbres des forêts tempérées ou tropicales, mais il a une allure d'arbre. Tout comme l'oasis, ce n'est pas vraiment une forêt, mais ça fait quand même songer à une forêt. Et les multistrates de l'oasis, ça fait songer aussi aux multistrates des milieux forestiers. On a là donc un traitement de l'arbre gag. Et le changement de traitement de l'arbre chez Hergé et dans Tintin, à mon avis, apparaît dans les deux ouvrages, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Dans Le secret de la licorne, c'est notamment dans le parc de Moulinsart, ou qui est une véritable forêt-parc, et où Tata, à un moment donné, poursuivi par l'énorme chien Brutus des frères Loiseau, dit « Mais c'est pas un parc, c'est une forêt !» Et on se rend compte, là, aussi, de ces milieux forestiers récupérés dans les résidences aristocratiques, qui sont des lieux où on a une forêt sous contrôle, mais où on évoque quand même le sauvage, alors qu'on est quand même dans le comble du domestique. Et cette ambiguïté, cette ambivalence sauvage-domestique, on la retrouve là aussi dans Le secret de la licorne. Et plus ça avance, plus l'arbre et la forêt d'Antata prennent une place importante, sont de mieux en mieux dessinés, et tous les types de forêts, et même tous les types d'arbres. Et il y a une bande dessinée, Les bijoux de la Castafiore, où il y a un arbre et un animal, l'arbre et la pie deviennent des acteurs essentiels. Et la couverture de la BD figure donc cet arbre isolé avec la Castafiore qui promène le capitaine Haddock. Et il y a une histoire avec des gens du voyage qui sont soupçonnés d'avoir volé les bijoux de la Castafiore. Et le dénouement, vers la fin, on se rend compte que c'est une pie et pas la petite fille, la petite gamine des gens du voyage qui est la voleuse, mais que c'est une pie qui a volé les bijoux, des ciseaux et d'autres ustensiles et qui les a logés au sommet d'un peuplier. Alors là aussi, avec la BD, ses prétextes, Tintin va grimper au sommet du peuplier. Et on a là une description. Là, c'est quelque chose qui est documenté. Parce que le peuplier, et en même temps, c'est bizarre. Un peuplier isolé, ça se voit rarement. Normalement, le peuplier, c'est un arbre qui est dans une peupleraie. C'est un arbre symbole, là encore, de la monoculture, de la monoculture industrielle, où on fait des arbres pour faire de la pâte à papier ou bien pour faire des allumettes. Et là, qu'il y ait un peuplier dans le parc de Moulinsart, c'est un peu étonnant, mais souvent, le peuplier sauvage, on le trouve en bord de rivière. Le peuplier noir, il est dans ce que les biogéographes appellent des répicilles. Mais là, ce peuplier isolé, il est un peu incongru dans le parc du jardin de Moulinsart. Mais en même temps, il correspond bien à un peuplier aussi, un arbre dont on a élagué les basses branches pour avoir un beau tronc, pour un tronc avec pas trop de nœuds, pour faire de la pâte à papier de bonne qualité. Et puis, là aussi, il y a un gag, il y a une branche qui tombe, et les Dupont, pour éviter la branche qui tombe, vont tous les deux s'emplafonner contre deux arbres voisins. Donc, on retrouve là l'arbre à gag, l'arbre prétexte à gag, qui est une des constantes de la bande dessinée chez Tintin. Et là, donc, l'arbre devient véritablement un des éléments essentiels de l'intrigue. Et les Dupont disent, c'est dommage, on avait des bons coupables, on avait des coupables idéales, c'est dommage que ce soit la pie. On retrouve là cette thématique du bouc émissaire. Et j'ai jadis eu une étudiante qui s'appelait Elsa Vieillard-Baron, qui avait fait son mémoire de maîtrise sur le bouc émissaire dans la bande dessinée, qui avait trouvé pas mal de choses assez intéressantes. Elle avait interviewé notamment les gens de Charlie Hebdo, et ça n'avait pas été triste à l'époque. Alors, revenons à Tintin. Paradoxalement, les allusions les plus intéressantes à la forêt et à l'arbre, on les trouve dans Tintin au Tibet, où il y a quasiment une seule ou deux planches où il y a de l'arbre. Tout le reste, c'est du rocher ou de la neige, quand ils sont à la poursuite du Yéti. Et il y a cette planche-là, où ils font une marche d'approche pour arriver vers le domaine des neiges éternelles. À Himalaya, ça veut dire le séjour des neiges. Et lors de la montée donc vers les étages sommitaux de l'Himalaya, il y a trois cases qui sont tout à fait intéressantes. Il y en a une où le capitaine... Moi, j'ai du mal à lire sur mon... C'est la première, c'est Tintin qui dit « on se croirait vraiment dans une forêt des Alpes ». Et derrière cette réflexion, il y a véritablement des enjeux scientifiques, parce que les chercheurs européens qui ont été visiter les forêts asiatiques, les forêts d'Amérique du Sud, les forêts des Andes, sont venus avec leur modèle de l'étagement alpin. Ils voulaient appeler les étages l'étage alpin, l'étage subalpin. Ils voulaient reprendre une typologie qui avait été faite dans les Alpes pour la plaquer dans les Andes ou la plaquer dans l'Himalaya. Et on trouve derrière cette réflexion mise dans la bouche de Tintin cette volonté d'avoir un modèle européocentré et puis de l'exporter dans tous les milieux du monde. La deuxième vignette, c'est le capitaine Haddock qui dit « Oh, si j'avais des rhododendrons comme ça à Moulinsart !» Et là, on trouve aussi le châtelain qui est à la recherche de plantes exotiques. Dès le XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu, et les grandes découvertes, la mission souvent des explorateurs, c'était de ramener des graines, des plantes, pour enrichir la pharmacopée ou les plantes alimentaires d'un pays, mais aussi des plantes esthétiques pour mettre dans les parcs et jardins des manoirs, des gentilshommes bretons, normands ou de l'intérieur. Et on ramenait des arbres, mais on ramenait aussi des plantes des sous-bois. Les rhododendrons font partie de ces plantes qui ont été l'objet de commerce et qui font partie de ces plantes venues d'ailleurs, qui ont été introduites en Europe, qu'on appelait des exotiques. Et certaines de ces exotiques sont d'ailleurs devenues parfois des plantes un peu envahissantes. Et on les appelle maintenant les invasives ou les aliens. Et il y a tout un débat autour de ces plantes venues d'ailleurs qui est déjà en germe dans Tata. Et puis, la troisième image qui m'amuse, c'est ce fruit qui tombe et qui, en arrivant au sol, fait ploutch. Et ensuite, Tata, en regardant en l'air, a le ploutch sur le visage. Et ce ploutch, c'est l'irruption de termes courants, vulgaires, dans le langage scientifique. Parce que le ploutch, il y a l'équivalent, les gens qui étudient l'érosion des sols et la façon dont les gouttes de pluie tombent au sol, il y a un effet qui s'appelle l'effet de splash. Ça s'appelle aussi le rejaillissement, c'est les gouttes qui tombent au sol et puis qui projettent des petites particules tout, c'est le splash. Et puis il y a les tailleurs de grès en forêt de Fontainebleau, suivant la dureté du grès, ils avaient des grès qu'ils appelaient pif, paf, pouf. Et ça, c'est des façons de nommer, des parlers qui ne sont pas très scientifiques, mais qui sont susceptibles de passer dans le langage scientifique. Et donc, dans cette simple planche, à mon avis, il y a des choses à dire sur le modèle européen, les exotiques et le vocabulaire scientifique. Dans les derniers albums, on a la forêt tropicale qui entre en scène avec les... les épiphytes, l'exubérance, et là aussi on retrouve toujours le gag du fruit salvateur, l'arbre providentiel, le fruit salvateur, le régime de banane qui assomme la personne qui voulait tuer Tintin, l'arbre providentiel qui lui permet d'échapper à la cataracte, à la chute, et l'arbre aussi qui est l'objet de double gag où on trébuche sur l'arbre, il y a une branche qui vient sauver. Dans la même planche, l'arbre joue deux fois son rôle de machine à gag. Et puis, on voit là encore la forêt tropicale dans les derniers albums, Tintin et les Picaros, où on a une forêt là aussi, ce qui est souvent comme un décor un peu de carton-pâte en arrière-plan et qui n'est jamais véritablement... décrite de façon très raisonnable. C'est plutôt de la forêt à la Douanier Rousseau ou de la forêt de serres tropicales des régions tempérées que de la forêt réelle. Et donc, pour terminer cet exposé un peu pas super structuré comme je l'aurais voulu, mais que j'ai dû faire trop vite, dans Tata au Congo, on voit aussi qu'il a déjà aussi la caméra. Et après la bande dessinée, il y a le film qui est aussi une source hyper riche d'utilisation d'images de l'arbre et de la forêt et qui mérite, qui est aussi un média à interroger. Voilà.
Alors, merci Paul. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait aussi d'utiliser des bandes dessinées classiques, enfin celles qui ont été lues peut-être par tout le monde. Et qui parlent dans notre imaginaire et surtout qui vont formater, quand c'est des bandes dessinées de l'enfance, les imaginaires du futur adulte. Donc, le tour des questions pour la salle.
Une question pour Tintin, justement, en écho à Astérix. Est-ce que dans Astérix, vu que dans Astérix, on retrouve le thème de la forêt sanctuaire qui protège aussi le village? Puisqu'ils ont fait le tour, de même que les corbeaux font le tour. Est-ce qu'on retrouve aussi ce thème dans Tintin de la forêt qui protège, de la forêt refuge, ou...
Oui, dans les Picaros, les révolutionnaires, ils sont abrités en forêt. Il y a là les références à toutes ces forêts refuges pour les mouvements de guérilla d'Amérique du Sud. Et effectivement, dans Tintin, il y a ce thème de la forêt refuge qui est... Donc il y a le thème de la forêt sacrée, la forêt refuge, qui sont des invariants et des grands thèmes, des grands stéréotypes qui reviennent. Et dans Tata, il est présent plusieurs fois. Chez les Arumbaya aussi, c'est une forêt avec l'explorateur avec qui crache des fléchettes plus ou moins empoisonnées. Et les Adi Arumbaya ou leurs ennemis, on est là aussi dans des forêts-refuges avec cette idée aussi d'allusion à ce que certains appellent les peuples premiers qui trouvent refuge dans la forêt, mais qui sont aussi souvent des peuples qui sont en voie de déstructuration puisqu'on leur largue à la fois des tracts mais aussi de l'alcool, de même que les rebelles dans les Picaros sont aussi complètement imbibés d'alcool. On a là aussi des images de déstructuration et le fait que ces refuges sont des refuges partiels. Le refuge n'est jamais total et il est accessible. Et les peuples qui y ont trouvé refuge sont malgré tout des peuples menacés. Roland.
Oui, je n'ai pas tes qualités de bédéphile et je suis plutôt un amateur tout à fait occasionnel, mais c'est vrai que j'ai, par mon âge et mon vécu, beaucoup pratiqué Tintin, et Spirou et Fantasio, ne serait-ce que parce que c'était les seuls...
Tu vas me parler du Marsupilami ?
Et ne serait-ce que parce que c'était les seuls grands BD, les seuls grands journaux qu'on avait à notre disposition, sauf bien sûr d'autres, mais qui étaient plutôt du genre comics américain et que finalement on pratiquait relativement peu. Ne serait-ce aussi que parce que il y avait des raisons financières et qu'on achetait, moi j'étais dans une fratrie de trois, où on avait droit à un magazine par semaine, donc on attendait la sortie de Tintin. Bon, ensuite, ça a été, bien sûr, Spirou, Fantasio, Astérix, etc. Alix aussi, avant.
Oui, des choses sur les légions.
Bref, mais donc moi, ce qui me frappe dans les images que tu nous as montrées, et tu l'as dit d'ailleurs en disant que la Hergé a évolué dans son dessin de la forêt, mais moi, je trouve que finalement, il n'a pas tellement évolué et que c'est plutôt après lui que un gros travail de documentaire apparemment s'est fait dans les dessins récents et contemporains. Parce que les images qu'on voit, j'ai l'impression d'être devant des stéréotypes de forêt, même pas d'ailleurs de savane, parce que c'est dans cette image que tu viens de projeter allongé, qu'on voit des arbres commencer à ressembler à des... comment s'appelle-t-il ?
Les acacias.
Les acacias. Les acacias. Oui. Hein, alors que dans l'image carrée...
On l'identifie pas, oui.
Et la savane, en fait, c'est une prairie belge.
Hein, tout buissons, à fait, oui.
Les buissons, on n'est pas du tout dépaysés, on est en Europe. Alors que dans les dessins qui sont apparus ensuite dans les BD des années 70, 80, 90, j'ai l'impression qu'il y a un énorme travail documentaire et que les dessinateurs ont une volonté de coller de beaucoup plus près au réel. Non ? Je me trompe ?
J'ai pas, ça mériterait d'être creusé. J'en suis pas sûr parce que c'est très dur d'arriver... représenter un sous-bois forestier ou à une forêt, on la voit d'en haut, la canopée, là, c'est stéréotypé. Quand tu es dedans, tu t'accroches à des détails, et souvent, donc, les détails, c'est la plante épiphyte, c'est une fleur, c'est un animal qui apparaît furtivement, et je ne sais pas à quoi tu pourrais faire allusion, effectivement. Moi, je trouve que c'est toujours dur à mettre en case.
Là. Oui, je comprends bien, mais dans les dessins, que les cases qu'on a vues, Il y a des invraisemblances, tu es bien d'accord avec moi.
Ah oui,
et à un moment donné, on voit apparaître un tronc de palmier qui ressemble à un palmier de la Côte d'Azur en plein milieu de la savane. Mais ça n'existe pas. Le sol de la savane, d'ailleurs, c'est de la terre la plupart du temps. Là, on est toujours dans une prairie flamande ou belge. Et quand même, ce qui me frappe, c'est que dans les BD que je peux saisir maintenant, dans certains cas, il y a des détails, des façons de dessiner qui me semblent beaucoup plus précises et proches d'une certaine réalité.
Mais est-ce que le rôle de la BD, c'est d'être proche de la réalité ou bien de faire rêver, de laisser libre cours à l'imaginaire? Le réalisme, ça a son intérêt et ses limites. Donc moi, j'aime bien, à la limite, plus c'est caricatural, plus c'est stéréotypé, je trouve, plus il y a des choses à dire et plus ça montre effectivement. Après, il faut y arriver le déconstruire et voir comment ça a été fait et que ça ne correspond pas à du réel. Mais vouloir être le plus proche possible du réel, je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif du dessinateur et que ça soit satisfaisant pour le lecteur. À la limite, moi, je m'arrange très bien. Plus c'est caricatural, plus j'aime.
Oui, mais alors à ce moment-là, c'est pas... Oui, là, on est sur des jugements de... Comment dire, non pas de rapport esthétique entre le lecteur et celui qui a dessiné. Est-ce que, dans ce cas-là, le géographe ne peut pas quand même regarder en quoi les images qui sont là sont le reflet ou éventuellement
Ah ben c'est ce que je croyais avoir démontré que
certaines réalités. Je déplace ma question. Ce qui m'a frappé, c'est que toutes les BD récentes, en particulier sur l'histoire contemporaine de la France, il se trouve que j'ai lu beaucoup des BD sur la France pendant l'occupation. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de sujets qui sont sortis là-dessus. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité de... on peut dire que c'est peut-être une erreur dans ce sens où ça ne porte pas au rêve, mais la qualité des dessins qui ont reconstitué les atmosphères urbaines ou même ruraux de la France de cette période. Et on a vraiment... Enfin, moi, j'ai eu l'impression, mais je me trompe peut-être, que ces dessinateurs ont fait un gros travail d'investigation à l'amont. Et que moi, en tant que lecteur, j'y trouve, une connaissance ou une reconnaissance historique de ce qu'était la France dans les années 45, celle sur laquelle, d'ailleurs, j'ai ouvert les yeux. Alors, en ce qui concerne la géographie, je suis plutôt tenté, moi, d'avoir une autre démarche qui est celle de quel est le rapport entre le dessin qui m'est présenté et le réel géographique pour autant qu'on le connaisse.
Je pense que les deux démarches sont légitimes, justement, et voir si on rencontre du réel avec le plus de nuances possible et arriver le mettre en case, ou bien si on le recrée avec des filtres cognitifs, culturels. Et chez Hergé, ça me paraît significatif. Là,
Oui, moi je me situais plutôt dans l'évolution générale de la façon de dessiner. Mais là, j'avoue que je n'ai pas assez.
Non, moi non plus, j'ai
connaissance.
Et puis moi, mon travail, c'est des flashs. C'est pas mon objet d'étude. C'est un exercice un peu imposé.
Et du coup, on pourrait retrouver ce que Julie Le Gall proposait tout à l'heure au niveau, elle, du monde rural. Le monde rural décor, espace décor, et qui l'a peut-être est trop caricaturé, et puis la BD de reportage. Mais les deux apportent des choses sur ce qui fait nos représentations. Et ici, on a nos propres stéréotypes dans Tintin. Juste peut-être rajouter que Benoît Peters, qui est notamment scénariste des Cités Obscures, très grosse série de bande dessinée, et également théoricien de la bande dessinée et notamment spécialiste d'Hergé, nous est venu sur la journée de septembre et nous rappelait, puisqu'on a tendance à l'oublier, que Tintin, les premiers albums sont en noir et blanc.
Oui,
c'est pas lui qui a fait la recolorisation, et lui, en tant que spécialiste, trouvait que c'était une trahison.
C'est l'auteur de Black et Mortimer qui a colorisé.
C'est ça. Alors peut-être également que finalement cette caricature, elle a aussi un petit peu échappé à Hergé, puisqu'en noir et blanc représente, c'était finalement très pur son dessin.
Oui, oui. Mm. Il n'y a que Tata au pays des Soviets qui est resté en noir et blanc, qui a pâté.
Exact.
Et là, c'est vrai que là, l'image de l'arbre, c'est la... Mais c'est manichéen, hein, c'est le blanc et le noir, et c'est... On est dans de l'ultra-caricature, à mon avis, comme pour...
J'ajoute deux choses sur Benoît Peters, il a écrit un très bon livre sur justement une étude complète sur les bijoux de la Castafiore,
oui.
Sur, donc, qui est vraiment très bien. Et juste pour revenir, peut-être que l'art, c'est tellement quelque chose de détaillé, si on veut vraiment faire du réalisme, si le réalisme est possible en bande dessinée et qu'on réussit à aller au-delà des filtres cognitifs dont vous parliez, si l'art est tellement détaillé, tellement réaliste, tellement difficile à réaliser, je pense que nécessairement il y a un travail de simplification aussi qui se fait, et ce travail de simplification passe aussi par des stéréotypes culturels que chaque dessinateur a dans son dessin. C'est très compliqué, je pense, de représenter chaque feuille, ou ce serait un travail à la Dorier ou...
Oui, puis mais représenter une écorce d'arbre, c'est quelque chose, c'est redoutable. C'est pas la même chose sur une face d'arbre que l'autre, il y a de la mousse, et rares sont ceux qui sont collés à ça. Bon, mm-hmm. Et à la limite, la photo est là pour ça, c'est pour ça, c'est un autre arbre.
Et souvent d'ailleurs, c'est l'arbre et la forêt, c'est ce qui est la terreur dans le cinéma d'animation. Pendant les Walt Disney, etc., ça a souvent été la terreur pour... Alors que... Voilà, Walt Disney, c'est la forêt sur un grand nombre de films. Et celle, la forêt qui a été perçue par le public comme la plus véritable, véridique, plus ressentie, c'est celle qui a fait le plus d'ellipses dans le dessin, c'est celle de Bambi, qui en fait, c'est des touches.
Oui, c'est
qui fait véritable. Mais du coup, oui, c'est difficile, quoi, techniquement.
Alors...
On va peut-être par contre se lancer.
Un petit malentendu sur ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Bien sûr, il faut introduire une notion d'échelle. Les détails que l'on peut prendre en compte dans la case d'une BD n'ont rien à voir avec les planches de botanique. Et ce que j'attendrai dans ce cas-là, ce n'est pas le détail de l'écorce ou le détail de la feuille fine. Mais par exemple, à un moment donné, quand même, Hergé représente un arbre qui manifestement est un marronnier, si j'en crois le fait qu'il y a plusieurs feuilles bien attachées ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle même de la case, chaque arbre a une forme différente, un port différent, et que ce port, on pourrait éventuellement le traduire. On a parlé tout à l'heure des acacias. Il est évident que même à l'échelle d'une case, on peut dessiner un acacia. Les détails dont je parle, c'est en fait les formes graphiques qui sont représentables à l'échelle de la case de la BD. Et là, quand même, vous ne tordez pas trop ma recherche du détail. Et je ne tombe absolument pas dans l'hyper-réalisme.
Et à propos de ça, il y a des chercheurs qui ont travaillé justement sur les modèles d'arbres. Il y a une dizaine de modèles d'arbres qui sont les modèles des 50 000 arbres existants dans le monde. Et donc, effectivement, normalement, on reconnaît très vite des types de modèles, suivant que c'est des branches horizontales, des branches en V, des branches retombantes. Et il y a une dizaine de modèles qui, effectivement, pourraient servir de canevas pour une représentation signifiante et pas totalement onirique.
Juste pour faire la transition, vous allez voir tout à l'heure qu'en fait, c'est aussi la façon dont on présente l'arbre avec plus ou moins de précision. C'est aussi la tentative d'un rapport à la nature. Et puis là, on est dans des BD où c'est vraiment les hommes qui sont mis en avant. Mais notamment dans la bande dessinée japonaise, les arbres vont être...
Ouais, c'est comme ça, c'est des magasins.
C'est régulièrement, ils vont être extrêmement détaillés.
Bambi,
c'est vraiment un rapport à la nature.
Je l'ai fait à Beau.
C'est Chinois qui a fait le dessin.
Le dessin, ah bah oui,
depuis... Et c'est ça,
qui est venu dans les studios au Disney. Quelques années, j'ai plein de trucs sur la même de représenter la forêt. Si, la pause.
Oui, si, une pause de
30 secondes.
Non, 10 minutes.